VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour, au micro Idrissa Seydoudia et Jean-Roger Bion. Le Monde aujourd'hui, édition du jeudi 20 avril 2017, en direct de Washington. Pour commencer les titres.
Au Mali, le gouverneur de la région de Gao annonce de nouvelles mesures pour lutter contre l'insécurité grandissante.
L'hépatite E tue 25 personnes dans la région de Diffa.
Au Nigeria, deux hauts responsables soupçonnés de malversation ont été suspendus par le président Muhammadu Buhari.
Au Zimbabwe, le chef de l'opposition, Morgan Tsvangirai, forme une alliance avec l'ex-vice-présidente Joyce Mujuru pour combattre le président Robert Mugabe.
La Russie a bloqué hier au Conseil de sécurité de l'ONU une condamnation du dernier tir de missile nord-coréen.
Le secrétaire d'État américain Rex Tillerson estime que l'accord nucléaire avec l'Iran échouait, je cite, à remplir ses objectifs.
Et ne manque pas notre page de sport ainsi que la Minute Éco.
Pour l'instant, le journal.
Au Mali, face à l'insécurité grandissante dans la région de Gao, les autorités locales ont pris certaines mesures pour faire face à cette situation. De Gao, notre correspondant Boubacar Touré nous dit lesquelles.
Dans le souci de sécuriser les personnes et leurs biens, les autorités de la région ont pris certaines décisions qui entrent en application à partir de ce vendredi, à savoir la circulation des motos à deux roues et à trois roues est interdite entre les villes et les villages dans toute la région de Gao. Le port d'une arme à feu est formellement interdit aussi en ville ou hors de la ville, sauf pour les militaires maliens et leurs alliés et les soldats du MOC, le mécanisme opérationnel de coordination. Le chef de l'exécutif régional, Seydou Traoré, a tout d'abord insisté sur les causes ayant mené les autorités administratives et militaires à prendre de telles décisions avant d'inviter les uns et les autres à faciliter le travail aux militaires maliens et étrangers qui se battent au quotidien pour le retour de la paix et de la sécurité dans la région. Les populations de la région de Gao comprendront la nécessité de prendre de telles décisions. Wait and see. Gao, Boubacar Touré, VOA Afrique.
Le président Muhammadu Buhari a suspendu hier deux hauts responsables de son administration soupçonnés de malversation. Le point avec Anastasie Toudiech.
Le chef de l'État nigérian a suspendu l'un de ses plus proches collaborateurs, le secrétaire général du gouvernement, David Babachir Lawal. Il est soupçonné de détournement de fonds destinés à l'aide humanitaire. Selon un rapport d'une commission sénatoriale, des contrats ont été attribués à des sociétés appartenant à M. Lawal, dont un contrat de prestation de services dans l'état de Yobe, où sévit Boko Haram. Le président Buhari a ordonné une autre enquête après la saisie à la mi-avril dans un appartement de Lagos de plus de 40 millions d'euros en liquide. L'Agence nationale du renseignement a revendiqué la totalité de la somme. L'enquête devra dire comment celle-ci a obtenu les fonds en question et s'il y a eu ou non violation de la loi. En attendant les conclusions de l'enquête, le patron des services secrets, Ayo Oke, est lui aussi suspendu. Le ministre de la Justice, le conseiller à la Sécurité nationale et le vice-président sont chargés des deux enquêtes. Leurs limiers ont deux semaines pour présenter leurs conclusions.
Au Niger, l'hépatite E a tué 25 personnes dans la région de Diffa, dans le sud-est, proche du Nigeria, qui abrite quelque 300 000 déplacés et réfugiés de Boko Haram. C'est ce qu'a indiqué hier soir à la télévision publique le ministre de la Santé, Ilyasu Manaisara. Les autorités, l'Organisation mondiale de la santé OMS, Médecins sans frontières MSF et l'UNICEF ont lancé des campagnes de sensibilisation et prennent en charge gratuitement les malades, à majorité des femmes enceintes, a-t-il souligné, assurant que la situation est sous contrôle.
Arrivé par vol spécial hier à Ouagadougou, de 154 migrants burkinabés évacués de la Libye par l'Organisation internationale pour les migrations, l'OIM. Selon un journaliste de l'AFP, c'est 147 hommes et 7 femmes détenus pour la majorité dans des centres de rétention en Libye ont presque tous décrit des conditions de vie difficiles.
Au Zimbabwe, le chef de l'opposition Morgan Tsvangirai et l'ex-vice-présidente du pays Joyce Mujuru ont annoncé mercredi la formation d'une alliance contre le président Robert Mugabe en prélude aux élections générales prévues l'année prochaine. Le point, Solange Nyamulisa.
Morgan Tsvangirai a déclaré que ce n'est que le début de la construction d'une large alliance pour affronter la ZANU-PF au pouvoir aux élections de 2018. Il a appelé le peuple zimbabwéen à unir leurs forces pour reprendre leur pays, leur liberté et leur dignité. Le chef du mouvement pour un changement démocratique a assuré que d'autres accords seront signés avec d'autres partis politiques pour former une grande coalition. Joyce Mujuru, ex-vice-présidente leader du Parti national du peuple, a précisé qu'il travaille sur ce projet depuis un an et ont hâte de voir les Zimbabwe redevenir le grand pays qu'il a été. Les détails de l'accord n'ont pas été divulgués. En août 2016, Morgan Tsvangirai et Joyce Mujuru avaient déjà animé ensemble un grand rassemblement contre les régimes de Robert Mugabe au pouvoir depuis 37 ans. À 93 ans, M. Mugabe a déjà annoncé qu'il sera candidat à sa propre succession en 2018.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les États-Unis ont cherché hier à rassurer leurs alliés sur le fait que le groupe aéronaval de l'USS Carl Vinson se dirigeait bien vers le Pacifique Nord comme moyen de dissuasion à la Corée du Nord et son programme d'armes nucléaires. Mais ces assurances viennent après plusieurs jours de déclarations d'officiels dont le président Trump, déclarations qui ont induit en erreur et selon lesquelles le porte-avions et d'autres navires se dirigeaient déjà là-bas. Le groupe aéronaval était plutôt dans le Pacifique Ouest où il a participé à des exercices abrégés avec les forces australiennes.
La Russie a bloqué hier au Conseil de sécurité des Nations Unies une condamnation du dernier tir de missile nord-coréen en dépit du soutien de la Chine alliée de Pyongyang. La proposition américaine de condamnation, consultée par l'AFP, demandait à Pyongyang de s'abstenir de mener de nouveaux tirs-tests de missiles nucléaires ou balistiques après un nouveau tir raté dimanche. Selon des diplomates du Conseil, Moscou souhaitait agrémenter le texte d'éléments d'une précédente déclaration, à savoir la nécessité de parvenir à une solution à travers le dialogue.
Ici à Washington, le secrétaire d'État américain a estimé hier que l'accord nucléaire avec l'Iran échouait à remplir ses objectifs. Rex Tillerson l'a dit après l'annonce de l'ordre donné par le président Donald Trump pour la révélation ou la réévaluation de la position de Washington face à Téhéran. Je vous laisse donner les détails, Jean-Roger Bion.
La Maison-Blanche a certifié mardi que l'Iran respectait ses engagements au terme de l'accord négocié par l'ancien président Barack Obama. Mais le chef de la diplomatie américaine a estimé que cet accord n'était qu'une façon d'acheter le régime iranien et ne faisait que retarder le développement de son programme nucléaire. L'accord nucléaire qui a été signé en 2015 par le P5+1 avec l'Iran échoue à remplir l'objectif d'un Iran dénucléarisé, a déclaré Rex Tillerson lors d'une conférence de presse à Washington. Il avait déclaré mardi soir avoir informé le Congrès américain du lancement d'une étude demandée par le président Donald Trump pour savoir si l'allègement des sanctions envers l'Iran prévu par l'accord nucléaire correspondait à l'intérêt national des États-Unis. L'Iran demeure l'un des principaux pays qui parrainent le terrorisme, avait alors écrit M. Tillerson. L'accord sur le nucléaire iranien, décrit comme l'un des principaux succès diplomatiques de M. Obama, est destiné à garantir la nature strictement pacifique du programme nucléaire iranien en échange d'une levée des sanctions internationales. Selon Rex Tillerson, cet accord est né, je cite, « de la même approche défaillante passée qui nous a amenés jusqu'à la menace imminente actuelle venant de Corée du Nord ». Fin de citation.
La Maison-Blanche a évoqué hier une possible rencontre entre Donald Trump et le pape François, avec lequel il a eu de vifs échanges durant la campagne lors de la présidentielle de l'année dernière. Cette rencontre devrait avoir lieu, selon le porte-parole Sean Spicer, lors de la visite du président américain fin mai en Italie. Précision de John Linden.
Nous prendrons contact avec le Vatican pour voir si une audience avec le pape peut être organisée, a déclaré Spicer, précisant que M. Trump serait honoré d'une telle rencontre. Le président américain participera au sommet du G7 prévu les 26 et 27 mai à Taormina, en Sicile. Il se rendra avant ce rendez-vous au sommet de l'OTAN à Bruxelles. Le Vatican, visiblement un peu surpris de cette initiative relativement tardive, a indiqué d'après son porte-parole que le pape étudierait toute demande d'audience officielle. En février 2016, le pape François et Donald Trump, alors candidats à la primaire républicaine, avaient exposé leurs profondes divergences sur leur vision du monde. Lors de la prestation de serment de Donald Trump le 20 janvier dernier, le pape François avait prié pour que ses décisions soient guidées par les riches valeurs spirituelles et éthiques du peuple américain, avec une préoccupation pour les pauvres et les exclus.
Plus de 150 entreprises américaines ont de nouveau pris position mercredi dans un document judiciaire contre le décret migratoire du président Donald Trump. Il s'agit essentiellement de membres du secteur technologique, dont des poids lourds comme Facebook, Google, Amazon et Microsoft.
Et puis, au Venezuela, le chef de l'opposition, Enrique Capriles, a convoqué pour aujourd'hui une nouvelle marche contre le président Nicolas Maduro. Deux personnes ont été tuées, une trentaine d'autres arrêtées lors de la vaste mobilisation de mercredi à Caracas et dans plusieurs autres villes contre M. Maduro. La Minute Éco, Abdourahmane Dia.
Le Ghana engage la lutte contre la corruption et le gaspillage de fonds publics pour répondre aux exigences du FMI. Le ministre des Finances, Kenafori Atta, a annoncé que le pays allait s'engager dans la lutte contre les emplois fictifs et imposer l'application de la loi sur les appels d'offres. Le Ghana a signé une convention avec le FMI qui lui a prêté 1 milliard de dollars sur 3 ans. La Côte d'Ivoire veut renforcer ses liens commerciaux avec le Vietnam. Un forum économique se tient présentement dans ce sens à Abidjan. Le volume des échanges économiques entre la Côte d'Ivoire et le Vietnam s'élève à 313 milliards de francs CFA, avec une balance excédentaire pour la Côte d'Ivoire de 114 milliards de francs CFA. La Côte d'Ivoire exporte principalement vers le Vietnam des produits agricoles, notamment les noix de cajou, le coton, le bois et l'huile de palme. Le Vietnam, quant à lui, exporte principalement vers la Côte d'Ivoire le riz, les pneumatiques neufs en caoutchouc, les vêtements et accessoires. Enfin, l'Afrique du Sud a réintégré le prestigieux classement des 25 pays les plus propices aux investissements directs à l'étranger, publié chaque année par le cabinet de conseil en stratégie A.T. Kearney. Après une absence de 2 ans, le pays figure au 25e rang dans l'édition 2017 de ce classement, qui mesure la confiance des dirigeants de 500 entreprises multinationales dans les diverses destinations d'investissements directs étrangers durant les 3 prochaines années.
À présent, les sports. Avec Eric Manirakiza. Football, la Ligue des champions en Europe, on connaît les demi-finalistes.
Victorieuse 3-0 à l'aller, la Juventus a éliminé Barcelone et atteint sa deuxième demi-finale en 3 ans après son match nul 0-0 hier au Camp Nou devant le public barcelonais. En finale 2015, Idrissa, les Catalans avaient battu les Turinois 3-1. Le Barça a échoué à rééditer sa remontée fantastique des huitièmes de finale contre le Paris Saint-Germain 6-1, on se rappelle, au Camp Nou après une défaite 4-0 au Parc des Princes. Et Monaco s'est imposé à domicile contre le Borussia Dortmund 3-1. L'aller 2-1 avait été marqué par une triple attaque à l'explosif qui avait visé le but du Borussia Dortmund. Les Turinois et les Monégasques rejoignent dans le dernier carré de la compétition le Real Madrid et l'Atlético Madrid, tombeurs respectivement du Bayern et de Leicester.
Europa League, on joue également ce soir. Lyon sous tension à Istanbul, Manchester United sous pression à domicile.
L'Olympique lyonnais espère faire l'essentiel dans l'un des stades les plus chauds d'Europe pour consolider sa victoire à l'aller de 2-1. Quant à Manchester United, tenu en échec 1-0 par Anderlecht, il est au pied du mur avant le retour de ce soir. Les mancuniers vont toutefois devoir ferrailler pour disputer la finale le 24 mai prochain à Stockholm.
En Afrique, le nouveau sélectionneur de l'Algérie se lance un défi passionnant.
L'Espagnol Lucas Alcaraz a l'ambition de mener les Fenecs jusqu'en demi-finale de la CAN 2019. Pour y arriver, il promet de bâtir une équipe qui va lutter pour gagner tous les matchs malgré les difficultés actuelles qu'il reconnaît. Alcaraz dispose de 2 ans pour faire ses preuves à la tête des Verts.
Le TP Mazembe et ses rêves avec son nouvel technicien.
Pamphile Mihayo, qui a évolué d'abord comme joueur du tout-puissant Mazembe, puis 5 ans dans le staff technique et avait déjà assuré l'intérim de coach en chef, Eddie Isango lui a parlé suivi.
parle toujours de ramener des coupes à l'équipe. Sans coupe, l'équipe ne va pas exister. Donc, il faut toujours ramener des coupes. Donc, nous avons deux compétitions à suivre, la Ligue nationale de football, la Coupe de la Confédération que nous devons garder pour nous. Donc, nous allons continuer ce championnat-là de la Confédération pour pouvoir arriver jusqu'au bout et pourquoi pas ramener la coupe.
Pour terminer, Idrissa, les playoffs continuent en NBA. Vous avez quelques résultats, n'est-ce pas?
Oui, Conférence Est, Washington a battu Atlanta 109-101, menant la série 2-0. Conférence Ouest, Portland a encore été écrasé par Golden State, 110-81. Les Warriors mènent la série 2-0. Houston a encore battu Oklahoma City 115-111 pour mener la série 2-0. De nouveau avec vous, Idrissa Seydoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Burkina Faso, des éléments de la CRS, la Compagnie républicaine de sécurité, ont entamé un mouvement de grève. Ils ont exigé le départ du directeur général de la police accusé de détournement des fonds destinés aux policiers dans les services privés, la garde des hôtels, des banques et assurances. De Ouagadougou, notre correspondant Zoumana Wonogo.
C'est par un coup de fil m'informant que ceux qui ont l'habitude de réprimer les grévistes et autres mouvements sociaux sont en grève eux-mêmes ou qu'en CRS. Une fois sur les lieux, c'était la grogne totale et c'est dans un tohu-bohu indescriptible que le porte-parole des policiers nous a confié les raisons de leur mouvement.
Nous, on a demandé le contrat authentique, le départ du DG et l'exécution de la plateforme revendicative de l'UNAPOL. Nous avons demandé s'il n'y a pas de contrat authentique, aucun service privé ne sera fait. Moi, je vous signale que nous, on a eu une rencontre avec le DG, le directeur général de la police nationale. Il y avait une mission que nous effectuions au camp CRS, la mission Orbis. Nous, on recevait 2 500, c'était 10 000 francs. 7 500 là sont rentrés. La mission, ils ont commencé ça depuis 2011. C'est à partir de 2015, nous, on a pris 200 jours seulement pour calculer. Ça fait environ 15 millions et quelques, ça a été détourné. Donc, dire qu'il n'y a pas de détournement, qu'il n'y a pas de preuves, il y a les preuves au camp CRS.
Mardi, dans la soirée, le ministre de la Sécurité a rencontré les policiers grévistes. Et voici ce qu'il leur a dit.
De façon impertinente, ces jeunes-là m'ont dit, voilà, on veut 48 que le directeur général soit relevé de ses fonctions. Je dis, mais ce n'est ni vous, ni moi qui avions nommé ce directeur général. À ce que je sache, ce n'est pas comme ça qu'on agit, surtout dans un corps où la discipline est de rigueur. Si vous avez des problèmes, dites-moi quels sont les problèmes que vous rencontrez. On peut en discuter. Mais moi, je ne discute pas d'enlever ou pas le directeur général. Ce n'est pas de votre ressort. Mais si c'est les services payés, moi, j'ai pris toutes les dispositions qui s'imposent pour régler cette la question des services payés. Alors, aujourd'hui, moi, je suis très, très satisfait, mais mécontent à la fois, parce qu'aujourd'hui, on a trompé des tout jeunes de ne pas aller dans les banques, de ne pas aller dans les assurances. Je suis venu ce soir pour leur dire là, qu'ils font fausse route. S'ils ne vont pas, ça veut dire qu'ils refusent d'exécuter des missions à eux confiées. Et si un fonctionnaire, qu'il soit fonctionnaire de police ou autre, refuse d'exécuter, de travailler, bon, il sait les conséquences.
Visiblement, la tension est loin d'être tombée et des populations inquiètes nous ont avoué que ce n'est certainement pas en ce moment de menace terroriste que les forces de sécurité doivent être divisées. Zoumana Wonogo, Ouagadougou, VOA Afrique.
Restez branchés sur VOA Afrique à Ouagadougou sur 102.4 FM au Burkina Faso.
En Côte d'Ivoire, 6 ans après la chute de Laurent Gbagbo, son parti, le Front populaire ivoirien, reste divisé par une crise sans précédent. Deux camps s'affrontent pour le contrôle du FPI et les tentatives de réconciliation sont jusque-là restées vaines. D'Abidjan, les explications de notre correspondant Georges Ibrahim Tunkara.
Laurent Gbagbo et son épouse Simone en prison, c'est toute la machine FPI qui se trouve grippée. Deux camps revendiquent l'héritage du chef. D'un côté, celui de l'ancien premier ministre Pascal Afinguissan, reconnu par le pouvoir d'Abidjan, et de l'autre, celui de l'ex-ministre des Affaires étrangères, Abdourahmane Sangaré. Comment comprendre cette crise, Pascal Afinguissan?
La crise est une crise d'abord pour savoir quelle nouvelle ligne adopter et autour de quelle personnalité construire l'avenir.
Laurent Akoun, vice-président du Front populaire ivoirien, tendance Abdourahmane Sangaré.
Cette crise est le fruit de notre histoire. C'est pas exact qu'un parti comme le FPI ne puisse pas connaître en son sein ce genre de situation. Ceux qui se réclament du FPI de M. Ouattara, ceux qui se réclament ne sont plus, pour un certain nombre et en particulier pour celui qui est leur chef, ils ne sont plus membres du Front populaire ivoirien.
Conforté par une décision de justice qui le reconnaît comme président du FPI, Pascal Afinguesson s'évertue à ramener le parti dans le jeu politique. Pour lui et ses partisans, pas question de pratiquer la politique de la chaise vide. Afi veut donner une nouvelle orientation au FPI.
Le FPI a été perçu à un moment donné comme un parti fermé, sectaire. On l'a traité de parti de xénophobie, de ceci, de cela. Il faut travailler à élaguer toutes ces accusations.
Pour Laurent Akoun, la libération des prisonniers politiques et la mise sur pied d'une nouvelle commission électorale sont des exigences à satisfaire en vue du retour du FPI dans le débat politique.
Nous sommes dans le jeu électoral, mais nous ne sommes pas d'accord pour accompagner, pour donner une onction à un processus qui est fondamentalement inique.
De nombreux militants du parti sont déboussolés et espèrent une fin rapide de cette crise. Pascal Afinguesson.
À un moment ou à un autre, il faudrait bien que nous trouvions une solution. Soit on se retrouve ensemble, on fait l'unité du parti, ou bien c'est la séparation.
Le temps de la réconciliation est terminé. Afinguesson ne fait plus partie du FPI, selon Laurent Akoun.
Il n'est plus de notre parti, puisque c'est un problème qui idéologiquement nous sépare.
Le fossé qui sépare les héritiers politiques de Laurent Gbagbo est encore grand, et il faudra sans doute attendre le retour du chef charismatique pour que le FPI retrouve son unité d'antan. Georges Ibrahim Tounkara, Abidjan, VOA Afrique.
Abidjan, Côte d'Ivoire, 99 FM, c'est bien sûr VOA Afrique, 24 heures sur 24.
Au Burundi, 8 étudiants ont été renvoyés par le recteur de l'Université du Burundi et 5 autres sont emprisonnés, soupçonnés d'avoir voulu créer une rébellion. La situation est donc tendue à l'Université du Burundi où la grève des étudiants qui veulent l'abrogation du décret présidentiel instaurant le prêt bourse continue. Certains étudiants demandent la libération de leurs collègues et leur réintégration à l'université. Notre correspondant à Bujumbura, Christophe Kurunziza, s'est rendu au campus Mutanga.
Juste au portail d'entrée de l'université du Burundi, une affiche intéresse les étudiants. C'est celle des noms de 7 étudiants qui viennent d'être renvoyés pour cette année académique et l'année académique suivante 2016-2017. À l'intérieur de l'université, samedi dernier, les délégués des étudiants sont en réunion avec le directeur de la sécurité qui refuse aux journalistes présents d'écouter les doléances des uns et des autres. Pour avoir une interview des étudiants, on est obligé de chercher un sentier battu car certains étudiants ont peur de s'exprimer. Cet étudiant expose 3 doléances aux autorités.
La grève continue. La première est de libérer nos frères emprisonnés. La deuxième, nous demandons la réintégration de nos représentants qui sont envoyés. Et après, nous demandons le dialogue entre nous, les étudiants, et les représentants pour que la question ait une réponse favorable qui est l'annulation du décret.
S'il est vrai que cet autre étudiant pointe du doigt la politisation de la question du prêt bourse, il estime que la peur s'est emparée de la majorité des étudiants car la méfiance est de mise.
Nous sommes tellement persécutés, nous les représentants et même les étudiants en particulier qui aujourd'hui ont une grande peur de passer dans des différentes routes ou bien dans des différents sentiers, là où ils ont peur d'être arrêtés. Nous demandons le recteur ainsi que les agents de la police ou bien de la sécurité de voir si notre question va être résolue.
Pour cet autre étudiant, l'issue demeure le dialogue, comme le prônent plusieurs professeurs du syndicat du personnel enseignant.
La controverse ou la problématique pour la question de l'université du Burundi, c'est une mauvaise orientation de nos autorités. Et ils nous ont livré à la police. Maintenant, on est persécuté, on est en cachette, personne ne peut apparaître. Maintenant, on ne sait pas où nos chers camarades se trouvent. Il faut qu'ils nous entendent.
Nous avons voulu interroger le recteur de l'université, mais il ne décrochait pas. Le recteur Gaspard Banyangibona reproche aux étudiants d'avoir écrit directement au président de la République pour le préavis de grève. Il reproche aussi d'avoir fait des manœuvres frauduleuses pour extorquer des signatures de leurs collègues. Le syndicat du personnel enseignant de l'université appelle au dialogue concerté pour un dénouement positif de cette crise qui ne cesse de s'enliser. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
Dans Washington Forum, ce jeudi, on décrypte la grogne des étudiants à travers le continent, du climat tendu au Niger avec la répression brutale de manifestations étudiantes, au Burundi, en passant par le Tchad. Que réclament les étudiants? Quelles sont leurs conditions matérielles et financières? Les protestations prennent un tournant politique. Que font les gouvernements? L'irruption des forces de sécurité dans les campus est-elle la solution? Laissez-nous vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique et rendez-vous ce jeudi à 20h. Temps universel avec Tatiana Mosso et ses invités.
Et si aux États-Unis, la vente au détail a atteint en février et mars son niveau le plus bas depuis 2 ans, une faiblesse liée selon les statistiques gouvernementales à la chute du prix du carburant et des profits du secteur automobile. Toutefois, les experts l'attribuent aux mutations technologiques et démographiques que connaît le pays. Le reportage de Mel Arcega, présenté par Michel Joseph.
Le secteur américain de la vente au détail connaît un grand changement, dont l'une des victimes est la chaîne de magasins Sears. Ses pertes depuis 2011 se chiffrent à plus de 10 milliards de dollars, poussant son PDG à émettre des doutes quant aux chances de survie de la compagnie. Une opinion que partage Wendy Liebman, stratège du détail. Sears a atteint un point où son potentiel de continuer d'exister comme grande surface, comme institution financière ou conglomérat foncier est épuisé.
That's just all gone.
Il ne s'agit nullement d'un cas isolé. Selon la revue Business Insider, jusqu'à 3500 magasins devraient fermer au cours des prochains mois. Loin d'évoquer la situation en termes apocalyptiques, l'économiste en chef de la Fédération américaine des détaillants, Jack Kleinhines, assure que le changement fait partie du cycle des affaires. Regardez le secteur bancaire. Nous avons 2 fois moins de banques qu'il y a 10 ou 15 ans. Une consolidation est en cours et c'est un phénomène naturel dans l'économie de marché. L'Internet a changé la manière des Américains de faire leur emplette, mais il y a aussi la nouvelle génération qui achète presque tout sur ses smartphones ou tablettes, souligne Murali Gokhi, consultant à la firme Alex Partners. Ce que nous avons aussi constaté est que dans le e-commerce, le m-commerce ou commerce mobile connaît une croissance encore plus rapide. Marginal en 2012, il représente maintenant près de 20% des achats en ligne. Certes, les magasins en ligne en ont tiré un énorme bénéfice, mais pour Sarah Spagnolo, analyste à la compagnie Four Squares, l'e-commerce représente pour l'heure une fraction des dépenses des consommateurs. Les médias parlent beaucoup des fermetures de magasins. Ce dont nous, à Four Squares, parlons est que 90% des consommateurs se rendent à des magasins. Les experts prédisent une multiplication de fermetures de magasins, en particulier du fait d'une surabondance de ces établissements commerciaux. Les États-Unis ont le plus fort ratio de surface commerciale par habitant et projeter un déclin des achats en magasins n'est pas réaliste de l'avis de la Fédération nationale des détaillants qui projette une hausse de 4% des dépenses des consommateurs pour 2017.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h temps universel. Au programme, Island, Music, de la bonne musique des Antilles et Caraïbes. RM Show, c'est aussi l'interactivité en direct sur Facebook Live. Si vous voulez me voir en direct, écouter de la bonne musique et partager vos idées avec le reste du monde, connectez-vous sur notre page Facebook VOA Afrique à 20h temps universel. Nous avoir au téléphone, appelez au 001-202-619-3140. Vos SMS et WhatsApp au 001-703-350-3731. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. Merci aussi à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sedoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.